Jesus put us free. The king came, the queen queen. Watching the fools kill each other. The killers kill the killer.
Radio Apple Pie, la radio qui épluche, quatrième, bonsoir. Après Vincent Lobodo et son association Mamie Blue, après les Backsliders et leur dernier opus No Way, après Patrick Tabar et ses sculptures, peintures fantasmagoriques, nous recevons ce soir Paul Baudouin, dit Bol Baudouin, mécano-poète comme il aime à se définir, et Jean-Marie Payette, plasticien mammaire le week-end et plasticien tout court le reste de la semaine. On écoute You Am I. Tout d'abord, croisement diabolique entre un Kiss Moon sous Prozac et un Paul Weller sous amphétamine.
I know where you live and which hall you drive.
Allez, vous avez bien sûr tous reconnu You Am I, un excellent groupe australien qui interprétait Trike. Mais avant toute chose, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas salué nos invités. Messieurs, mille excuses.
Mais sans problème, aucun problème.
Sans problème.
Salut à vous aussi.
Paul, bonsoir, merci d'être là. Et puis Jean-Marie, pareil.
Bonsoir, pareil, les amis.
Siège peau de zèbre, bar TV, chaussé par la firme Boudinos, détecteur de képi, manche à air, double rotor, boîte à gants climatisée, carte routière internationale sur écran plat, allume-cigare ultra léger, WC achalandé du tout fleuve noir, et ça continue longtemps comme ça. C'est la description qui accompagne la célèbre Malcoverte Muzzarino, j'espère que je prononce bien, un des quidam de notre premier invité, Jean-Marie Payette, des quidam Kesako, des sculptures de tailles diverses, toutes petites ou très grandes, et réalisées en matériaux variés. Comme Paul, notre deuxième invité, Jean-Marie travaille à Mamie Blue et bosse sur du matériel de récupération. Mais il ne crée pas des machines, il crée des quidam. Jean-Marie, bonsoir. Alors c'est quoi ces fameux quidam ?
Non, en fait, c'est pas des... Comment dire ? Déjà ?
Ah, ça n'en est pas.
Voilà. Salut. Non, c'est pas des quidam. Enfin, en fait, les premières expos que j'ai fait, je voulais trouver un nom pour ne pas citer le mien. Pourquoi, je sais pas. Et donc, comme ce que je fais représente souvent des personnages, je me suis dit, allez, quidam, avec un Z, histoire de faire une petite distorsion à la langue française. Et puis, mais j'ai un peu oublié le côté quidam, quoi.
C'est une manière de pas personnifier, de pas... tes personnages?
Non, c'est mon extrême modestie qui fait que j'ai pas envie de filer mon blaze. Non, sérieusement, en fait, quand... quand il s'agit de faire une exposition, c'est souvent moi et Polo, quand on est ensemble, qui nous chargeons de la promo. Et puis, très honnêtement, moi, j'ai un peu de mal à mettre Jean-Marie Payette sur l'affiche, quand il y a une affiche, quoi. Et puis, Kidam, je trouvais ça rigolo. Il n'y a pas d'autre explication que celle-là, quoi.
Mais tu aurais pu prendre un pseudo, par exemple, ou un anagramme, faire quelque chose avec...
Ouais, j'aurais pu, mais...
T'as pas eu l'idée, t'as pas eu le nom qui t'a...
Non. Bah, j'ai un surnom. Excusez-moi. Non, j'ai un surnom, mais
que tout le monde connaît ici.
Bah, on m'appelle Jean Marloc. Et puis voilà. Mais bon, c'est pas vraiment facile de se définir, ni de définir ce qu'on fait. Je pense que c'est plus facile pour des gens qui font de la musique de dire on s'appelle les Chaussettes Noires. Ou...
Autre corde à ton arc d'ailleurs, parce que t'as été t'as vadrouillé quand même dans pas mal de groupes, je crois, au Havre.
Ouais, bah, à un moment, je jouais un petit peu de basse avec des amis, des petits groupes, quand même. Et puis voilà.
Si je peux en revenir alors je sais pas si on est des sculptures, aux œuvres que tu crées en elles-mêmes, est-ce que du coup tu leur donnes un nom, ou est-ce que c'est, comment tu les définis, des objets, des sculptures, des...
Bah, en fait, j'appelle ça des volumes, parce que ce sont des volumes qui portent pour la plupart un nom, qui viennent, le nom pouvant venir d'une anecdote ou autre, mais ce que je fais, c'est pas vraiment de la sculpture, vu que c'est plus de l'assemblage, donc j'appelle ça des volumes, sauf quelques trucs que je fais qui sont à plat, genre peinture.
Parce qu'en fait, on est en plein dans la même difficulté que la semaine dernière, c'est toujours difficile à la radio de parler de choses qui sont quand même très visuelles. Alors c'est vrai que j'ai cité un des textes qui accompagne ce que tu fais. Est-ce que pour chaque assemblage, il y a un texte aussi dans les expositions ?
Pas forcément, mais plus le temps passe, plus j'aime bien écrire, faire pondre des textes en fait. Et il y a des boulots que j'ai faits qui, à mon avis, pour lesquels un texte est bienvenu, d'autres qui seraient dénaturés par un texte. Mais il n'y a pas de cheminement, enfin rien n'est calculé. Je peux avoir fait un boulot il y a 2 ans, et puis tout d'un coup, un déclic me fait dire « Tiens, bah, un petit texte, ce serait pas mal. »
Ok, comment ça se passe concrètement? Tu réalises ta sculpture, et ensuite ça devient tout seul comme ça, ou c'est vraiment un effort pour toi? Tu veux vraiment faire un texte qui accompagne ton...
Bah, en fait, oui, très concrètement, la sculpture, une fois faite, si j'ai l'idée de lui faire un texte, si je trouve que je suis capable d'en faire un et que le texte pourra être... je me mets sur la table de ma cuisine et que moi j'en suis encore au stylo et au papier, je tape pas, et puis j'écris un texte en fait. Et puis après pas mal de remaniements, il y a un texte fini en fait. Enfin fini, non, c'est jamais fini, mais...
On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs, parce que je crois qu'avec avec Paul, tu fais aussi des textes pour ces Beckham.
En fait, il y a une, deux, trois boulots de faits par Polo, parce qu'il s'appelle pas Paul, il s'appelle Polo.
Ah désolé, une excuse.
En fait, il y a trois des boulots de Polo qui sont accompagnés par un texte que moi j'ai fait. Évidemment, si les boulots sont présentés avec le texte sera présenté qu'avec l'agrément de Polo, parce que c'est quand même lui le premier impliqué par le boulot en lui-même. Mais moi, j'aime tellement bien ce que fait Polo que j'ai aucun mal à trouver des trucs qui peuvent des mots qui peuvent aller dessus, quoi.
Ça sort tout seul.
Ouais, je pense, ouais. Enfin, disons que moi, quand j'écris un texte, les mots sortent tout seuls. Par contre, après, là où je me prends, là où je passe plus de temps, c'est à remanier, rien qu'au niveau de la syntaxe, il y a des imperfections qu'il faut revoir.
Pour en arriver à un résultat parfait, mais on y reviendra parce qu'on lira tout à l'heure quelques autres extraits de texte. Je voulais juste revenir sur la matière en elle-même et déjà comment tu récupères les fameux matériaux et est-ce que ça devient une idée comme ça d'un bloc ou est-ce que ça se fait au fur et à mesure?
En fait, moi je suis équipé d'un véhicule utilitaire et puis à défaut d'en avoir fait un camping-car, j'en ai fait une sorte de camion poubelle. Et je fouille pas vraiment dans les poubelles directement, mais je fréquente assidûment les déchetteries. J'ai aussi pas mal de copains qui savent que je fais de la récup et qui peuvent me dire un jour, tiens...
Allez, on t'apporte des choses.
Ça arrive qu'on apporte des choses, ce bout de ferraille, est-ce qu'il branche. Et puis donc, à force de faire ça, mon atelier se remplit d'objets... de toute provenance confondue et qui moi me plaisent et parfois il peut se passer 2 ans sans que l'objet soit utilisé mais ça finit souvent par être intégré une sculpture en fait.
Avis aux amateurs donc si vous possédez un grenier avec moult quantité de marchandises dont vous ne savez que faire, vous appelez Jean-Marie, il n'y a pas de problème, il débarrasse tout gratuitement et serviablement en plus.
Toute saloperie, dans beaucoup de métal.
Ok, on va peut-être enchaîner sur Hefner, qui est un excellent groupe pop qui est sorti il y a pas très longtemps. Et le morceau s'appelle, alors j'ai un anglais absolument catastrophique, The Hymn for the Cigarettes. Arnaud, quand tu veux, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
No one called, no one wrote, no one even phoned. So no one knew that I was with her on my own. She smoked in my bed cause she thought it would annoy me. But I love to see the girl smoke in my bed. I love to see the girl smoke in my bed. I love to see the girl smoke in my bed. I love to see the girl smoke. Love to see the girl smoke. How can she love me? She doesn't even love the cinema that I love. What does she feel? She doesn't have the feeling that I have in my fingers. This joy I have could lift this ceiling from its rafters. But I'm not laughing. Oh, we feel nothing. We achieve nothing, love. We feel nothing, so we search for nothing, so we achieve nothing, love. Lucky strikes remind me of my friends out on the west coast. Camel lights remind me of my ex-girlfriend at Christmas time. And Marlboro Reds remind me of giving up in Berlin. But B&H remind me of not giving up but giving in. B&H remind me of not giving up but giving in. B&H remind me of not giving up but giving in. B&H remind me, B&H remind me. How can she love me if she doesn't even love the cinema?
Radio Apple Pie, toujours en compagnie de Polo et Jean Marloc, plasticiens tous les deux. On continue avec Jean Marloc pour en savoir plus.
Oui, je voudrais qu'on vienne sur tes œuvres, Jean-Marie, parce que ben moi j'ai les photos devant moi, donc c'est assez facile à voir ce que tu fais, les matériaux que tu traites. Ben en fait, on peut dire que c'est une question d'assemblage. Tu assembles plusieurs matières différentes pour justement créer, donner une forme, donner une vie, donner une âme, si je puis m'exprimer ainsi.
Bah, c'est très bien exprimé, mon cher ami.
Merci. Enfin, ami.
Vous me flattez. Attends, par contre, je gratte tout de suite mon millionnaire.
Ah oui. Ah, pourvu qu'il gagne.
Séquence, passion, frisson, émotion.
C'est de l'art en direct. Est-ce que vous entendez le son du grattage?
Eh, sans déconner.
Non,
ça y est, non. Télé.
Combien?
Dominique, on ferme, on s'en va.
Ah non, je croyais que j'avais 1000 balles, non.
Oh.
C'est râpé.
Bon. Merde, c'est râpé.
Va falloir continuer, hein.
On va être
à bosser.
Donc on va être obligé de continuer à parler de tes œuvres, Jean-Marie, parce que c'est pas aujourd'hui que tu seras millionnaire. Désolé.
Maintenant, faut les vendre.
Faut les vendre, ouais. Ouais.
Je t'en prie. Si tu pouvais nous en décrire une en particulier, emportée sur une île déserte.
Sous nos yeux, il y en a plusieurs.
Il y a une photo de toi tout nu, mais ça compte pas.
N'en parlons pas. Bah là, il y en a une qui représente, en fait, je dirais, un totem. C'est un gros morceau d'Iroko sur lequel j'ai ajouté... sur la tête, il y a un bouchon de cristal. Il y a un ressort d'amortisseur. Il y a une fourche. Parce que j'aime bien les outils de jardin, en fait. Et les yeux viennent d'un lustre. Et ce totem s'appelle Tanguy, simplement parce que c'était un lustre qui était dans la chambre de mon neveu, qui lui-même se prénomme Tanguy. Donc c'est un totem qui fait la taille d'un enfant d'une petite dizaine d'années, en fait.
Voilà, ça lui a plu à ton neveu?
Il m'a dit qu'il aimait bien. Bon. Donc je le soupçonne d'être sincère, donc tant mieux.
Ok, mais tu es néophyte ou tu as suivi des cours? Ton parcours, c'est quoi exactement?
Non, moi je suis néophyte. Oui, je suis autodidacte, si ce n'est que... Il y a des gens qui techniquement, je parle du travail manuel, sont au point, qui me donnent parfois des conseils. C'est toujours bon à prendre. Mais sinon, moi, j'aime bien l'artisanat un peu au sens un clou, un marteau, un tournevis. Même si c'est moins confortable que d'être très bien équipé, j'essaye de me débrouiller avec mes propres moyens, mais qui sont petits, et mes petites connaissances, quoi.
Tu veux dire par là que si tu avais les moyens, tu travaillerais d'autres matières, un petit peu plus...
Disons que si j'avais les moyens, mon atelier serait mieux équipé au niveau outillage. Il y a des objets qui, à défaut d'être récupérés, seraient achetés. Et puis, surtout, je consacrerais beaucoup plus de temps à le faire, parce que l'alimentaire, je suis obligé, comme beaucoup de gens, d'avoir un alimentaire. Et puis, c'est un peu le hic.
Ouais, ça veut dire que tu en vis pas complètement.
J'en vis pas du tout.
T'en vis pas du
tout. Ça m'arrive de vendre quelques trucs. Ça m'aide de temps en temps à remplir le frigo, mais en termes général, au quotidien, c'est pas du tout mon gagne-pain.
Mais tu essaies d'exposer, non? Démarcher des galeries ou des...
Disons que ouais, j'expose peut-être 2-3 fois par an. Mais ça suffit pas à me faire vivre.
Et d'un point de vue prosaïque, t'arrives à passer combien de temps? Enfin, en dehors du fait que tu sois inspiré ou pas par moment, tu consacres quel genre de temps dans ta vie, dans tes journées, dans tes semaines?
C'est pas facile à chiffrer parce que c'est très très variable. Je travaille. Je travaille à ça en tout cas plusieurs heures par semaine. Parfois beaucoup, d'autres fois moins. C'est un peu selon le temps disponible et puis aussi l'énergie, parce qu'il est hors de question d'aller puiser de l'énergie là où il n'y en a pas pour faire ce genre de boulot. Parce qu'en fait, ce serait dénaturé. Je préfère être relativement disponible, je vais dire un mot à la con, mais intellectuellement, pour pouvoir m'y adonner, parce que sinon ce serait du forcing et puis il y aurait forcément un truc qui s'en ressentirait.
Ouais, bien sûr.
Et le fait de bouffer à côté comme ça, enfin de travailler à côté pour bouffer, excuse-moi, mais le lapsus finalement est révélateur. T'arrives à garder suffisamment d'énergie, suffisamment de...
Disons que le fait de travailler à d'autres choses, ça me donne de l'énergie parce que ça me permet de gagner ma vie, même si je la gagne pas largement. Mais ça me ça empiète forcément sur mon boulot de plasticien entre guillemets.
D'accord.
Parce que c'est mathématique. Il y a un dilemme, avoir de quoi vivre et payer un loyer, enfin le quotidien, au détriment d'un truc qui me plaît, ou alors me consacrer à ce qui me plaît, mais vivre moins confortablement.
D'accord, c'est un sacerdoce en fait. Tu resteras dans ce. Si demain on te propose une place de question con mais de 4 sup à 25 000 balles par mois, et puis vivre grassement, et puis pouvoir en profiter vêtu de ta belle cravate, n'est-ce pas, qui serait fleurie. Tu dirais évidemment merde et puis tu continuerais ton truc.
Ouais, j'en suis quasiment sûr. Mais après ça dépend, parce qu'il peut y avoir un. On peut exercer un boulot de 4 sup à 25 000 balles par mois en faisant un boulot passionnant.
Ouais, c'est possible.
Ça m'est encore jamais arrivé.
Comme nous à Radio Apple Pie par exemple, écoute, franchement.
Oui, c'est vrai, tiens, d'ailleurs j'ai pas été payé le mois dernier, Dominique, si tu peux voir ça, mais sans.
Attends, tout à l'heure tu m'as dit je suis surpayé et toujours payé à l'heure.
Ouais, toujours payé, oui, bien donc, sûr. C'est pour ça que messieurs, il va falloir qu'on fasse long ce soir. Parce que.
En fait, vous voulez que moi, invité, j'appuie vos revendications auprès de la direction.
On s'arrangera, Jean-Marie, absolument. On s'arrangera, je te promets.
Bon, alors effectivement, ils sont devant moi, mal vêtus et affamés.
Ok, on va peut-être passer les Sparkle Horse. Oh, c'est mieux l'accent, non? C'est pas terrible, non?
Si,
je reprends des cours anglais d'ailleurs. Et le morceau s'intitule Someday I Will Treat You Good.
Oh,
c'est
oui.
Parti.
J'espère bien. passe-t-il ? Ah, que se passe-t-il ? Je ne sais pas. Je vous rappelle qu'on est en direct du bar L'Apple Pie, et pour des raisons qu'on vous expliquera tout à l'heure, le Martini Gin coule à flot, ce qui explique un certain nombre de choses, notamment le petit mix qu'on a eu entre Someday I'll Treat You Good et Hot Woman's Got Me Drinking, ce qui ne va pas empêcher Bertrand de nous présenter notre second invité, qui n'est autre que Polo.
Je ne peux que rester pantois devant une telle... C'est du sauvetage, dis donc, c'est du grand art. Allez, est-il besoin de vous présenter l'homme par qui le scandale est arrivé ? La Martini. MG, la Martini Gin Machine, c'est lui. La machine à faire des pieds et des mains, c'est encore lui. Cette dernière lui a causé, lui cause et lui causera bien des péripéties avec nos ennemis de la Maréchaussée. Allez, je ne résiste pas à l'envie de vous lire une partie de la carte d'identité de cette fameuse MG, rédigée par son complice et non moins alter ego, Jean Marloc. Ouvrez les guillemets. Notons que cette machine aurait pu s'intituler la Ricardo, la Kir Royale, la Bourbon Soda, la Café Lait, la Gomme, l'Ardéchoise, la Pétard, la Fufu, la Blanc Coke, entre parenthèses, merci d'avoir ajouté Blanc plus Coca, ne rêvons pas, la Communarde, la Rhum Coca, la Gin Coca, la Rouge Limé, la Whisky Orange, Burke, la Lait Fraise, l'Eau Grenadine, la Coca Fraise, l'Eau Eau, très dur à prononcer, ou bien encore le La Picombière, peut-être une faute là, de si je puis me permettre. La Picombière, on dit ?
La Picombière, parce qu'il s'agit de la machine et non du produit.
Ah !
C'est subtil.
Mais par contre, Bertrand, si je peux me permettre à mon tour, c'est bien pas sûr. La gomme, c'est la gommée.
La gommée. Alors qu'est-ce que c'est que la... Bah tiens, explique-moi alors.
C'est du citron liquide avec de la bière.
Citron liquide bière, et je connais pas ça, moi, mon Dieu. Mon Dieu.
Bah moi j'en ai bu dans le sud de la France, apparemment là-bas ça se pratique beaucoup.
D'accord, donc mille excuses d'avoir écorché ton texte Jean-Marie.
Quand il disait qu'il travaillait sa syntaxe.
J'ai du mal à excuser, enfin bref, on va mourir.
Ok, donc la liste n'étant pas exhaustive, bien entendu. Eh bah, ben Paul, on va se tourner vers toi, si tu peux nous en dire plus sur ta machine diabolique, parce que quand je vois l'état des gens dans ce café, c'est absolument, c'est terrible.
La Martini Gin,
ouais.
Mécanique.
Ouais, comment tu en arrivais déjà mentalement à penser un truc comme ça ? Parce qu'apparemment le plus alcoolisé des deux, je sais pas qui c'est, si c'est Jean Marloc, si c'est toi. La vérité, Polo, ouais, tu vois.
Le public réclame la vérité.
Un jour, Jean Marloc m'a invité à partager une expo sur Basse-Normandie et tout. Et puis l'idée est venue de là, quoi, faire un vernissage convivial. Et Marloc m'a dit, tiens, le Martini Gin pour les vernissages, et ça le fait. Donc, et pourquoi pas, bah, fabriquons la machine à faire des Martini Gin. Et voilà, elle est née.
Et la conception a été difficile ?
Ça a été.
C'est-à-dire ?
Ouais, c'est toujours délicat, mais bon, après, c'est la motivation. Là, vraiment, ça faisait plaisir d'arriver à faire cette réalisation. Donc, bon, difficile, oui, mais en même temps, passionnant et... Et voilà, ouais, difficile, ouais, ça s'est pas fait tout seul. Mais bon, c'est arrivé, ça a coulé de source et pouf, elle est arrivée.
L'idée a coulé de source, le résultat final, bon, est arrivé comme ça, les doigts dans le nez, si on peut dire, mais enfin, il y a quand même du matériau là-dedans. Alors, est-ce que tu peux, parce que c'est toujours pareil, on est à la radio, les gens en direct ici dans le bar voient bien à quoi elle ressemble, hein, et voient même bien ce qu'elle produit finalement.
C'est pas très compliqué en fait, elle fonctionne avec des doseurs à billes, et ces doseurs à billes fonctionnent on les fait tourner, on leur met la tête en bas. Alors on équipe la bouteille de ce doseur et on prend la bouteille dans la main, enfin pas sur cette machine qui est donc mais on prend la bouteille et quand on lui fait faire une rotation de 360 degrés, il y a en fonction du doseur un dosage.
C'est quand même hyper calculé, faut avoir des notions de physique
je sais plus.
D'accord.
Honnêtement,
une petite question de plus parce que apparemment
deux quarts de bout de vélo, deux engrenages, un guidon, une chaîne, trois mouvements verticaux, les bouteilles tournent et les doseurs versent le liquide 5 centilitres de martini, 2 centilitres de gin dans deux garde-boue récupérés par deux tuyaux en cuivre qui eux-mêmes se mélanger dans un petit entonnoir. Là on a placé le verre. Et tout à hauteur d'homme, c'est-à-dire on est debout, on place son verre comme un comptoir, enfin c'est ergonomique en plus.
Ah tu vois, et comme tu le faisais remarquer, je sais pas si on l'entend bien ici, mais si les auditeurs sur le web l'entendront, mais quand elle fonctionnait, elle faisait un petit bruit délicieux.
Si, ça y est, on réentend un petit peu le pétard.
Je crois qu'il y a un problème quand même quand...
Ça fait un peu...
Refais-le, tu peux le refaire.
Yes. Non, voilà, on entend.
On peut l'entendre, ça repique, ouais. Mais Arnaud est venu juste à côté de nous parce qu'apparemment il y a un dilemme, il y a un problème quant à l'origine vraiment de cette machine.
D'accord,
apparemment,
alors,
tu n'aurais pas dit la vérité, Polo. Et ça, c'est pas bien, tu le sais, ta mère t'a
souvent dit.
On peut savoir pourquoi ou je passe le micro à Arnaud et alors là je ne réponds de rien malheureusement.
Ah, je sais pas, Marloc.
Il y a Jean Marloc qui fait non.
Vous pouvez pas voir, il y a un duel de regard.
Que se passe-t-il? Alors là, les avantages, les inconvénients du
c'est
direct.
C'est pas bon, on finit l'émission tous les deux, Juliette. Bon, tu fais
quoi
après?
Bon, on va continuer. Eh bien, écoute, je vais boire du Martini. Qu'est-ce que tu veux? Oui, bon. Alors, je voulais poser une question.
C'est vrai que le Martini Gin est un cocktail. Oh, pardon, excuse-moi.
Non, je t'en prie, vas-y.
Est un cocktail désaltérant.
C'est vrai. Je voulais en venir au fait que ce n'est pas une machine inutile. Parce que si nos fiches ont été bien faites par nos nombreux assistants, il est écrit dans ta biographie que tes machines sont inutiles. Ce qui se discute d'ailleurs, comme la machine à faire des rondes fumées, la machine à faire des pieds et des mains, on y reviendra. Mais celle-là, par contre, la MG, elle sert à quelque chose, indéniablement, de très concret.
Oui, c'est juste.
Bien, merci.
Mais t'en as fait d'autres, des machines comme ça? Est-ce qu'on peut, par exemple, se dire, bah tiens, du jour au lendemain, moi, le Martini Gin, j'en ai marre. Est-ce qu'on peut remplacer... je veux dire, c'est pas une machine qui est exclusivement réservée au Martini et au Gin. On peut faire ce qu'on veut.
Ouais. Soit 5-2, non?
Faut pas que ce soit trop sucré. Les doseurs ne fonctionnent pas.
Mais ça,
si
c'est une question de goût, mais au niveau... Parce que j'imagine que tu parlais de physique et d'ergonomie tout à l'heure, mais il doit y avoir un rapport poids au niveau de l'inclinaison des bouteilles lorsque tu actionnes la manette, on est bien d'accord?
Ouais.
Donc j'imagine qu'il y a eu tout un travail derrière de calcul, non?
Oui, mais la machine, là, telle qu'elle est, elle peut supporter toutes sortes de bouteilles, on peut imaginer des choses...
C'est une question de réglage, alors, finalement.
Oui, totalement.
D'accord.
Okay. L'ergonomie à géométrie variable. Ah, ouais. Attention,
c'est peut-être le moment...
Ok, c'était une private joke.
Et alors, nous avons des projets avec Marloc.
Ah!
Développer la Martini Gin et en fait arriver à faire un genre de.
De citerne?
De citerne.
Ça a l'air vachement bien.
Mais
son
pâte! Une citerne avec des roues, mais c'est souvent.
Donc vous vivez ça à plus grande échelle finalement, il faut s'étendre. Donc s'il y a un industriel qui nous écoute, il peut vous contacter. Et puis essayer de... Non ?
Oui, à grande échelle, on imaginerait sur la zone industrielle les énormes bidons à pétrole et carrément faire... Non, mais ce qui serait chouette, ce serait un camion-citerne. Un réel camion-citerne avec des arrêts de bus dans la ville. Et tous les quarts d'heure, tu sais que le camion-citerne va passer là. Et pouf, tu te fais embarquer pour une tournée et tu pars un quart d'heure. Et alors, tu rentres dans la citerne, il y a des banquettes, des tables. Et là, c'est un délire, c'est un bar tournant dans une ville. C'est pas près d'arriver ici, j'imagine.
Je pense pas que ça plaise vraiment à Rufnak, mais on pensait jamais.
Enfin, à Rufnak, pas plus.
Ça, c'est une idée, à mon avis.
Adam et Coco, parce qu'il serait trop fortement concurrencé, comme ils sont
à Mesquin. Il peut rester 3-4 tournées.
Oh, Mesquin, oui, mais pas à ce point-là. Bon, arrête, on est chez eux, merde.
Ah oui, c'est vrai.
Bertrand?
Ouais, on va peut-être passer
le
un petit peu.
Le camion citerne, il faut quand même le marquer dans les esprits.
Non, mais ça, c'est une très bonne idée, mais ouais, tu vas t'attirer les foudres de tous les caféiers du Havre. Tu vas te faire lyncher.
Non,
si tu passes avec ton camion.
Ça va pas être incitation à l'ivresse sur la voie publique ou quelque chose d'équivalent?
À moins que d'être soi-même un de ces tauliers du Havre qui déjà ont les relations et ont le pouvoir. Enfin, voilà. Et là, monter une antenne de son bar.
Attends, chose importante, en train de dire que pour ouvrir un café au Havre, il faut avoir des relations à la mairie, des choses comme ça.
Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire.
Okay. Non, attends bien, parce qu'il y a Tom qui se lève et il a l'air de jouer à la main.
Non, c'est ce que je veux dire, par contre, tenir...
On va se faire virer.
Il a commencé à frapper Jean Barloc.
Tenir un bar, c'est un vrai métier. Et on s'invente pas barman.
Tandis que tenir une citerne, finalement, c'est moins
non,
difficile.
Mais ce que je veux dire par là, monter un projet comme ça, il faut, à mon avis, avoir de la bouteille derrière soi et avoir peut-être 20 ans de troquet.
Bien joué. En fait, c'est une espèce de happening. Mais peut-être que tu pourrais le proposer, je sais pas. Vous pourriez faire une coprode avec Royal Deluxe, Le Géant,
mais pourquoi pas,
du
pourquoi
Martini
pas.
Gin.
Et c'est vrai que sur le boulevard maritime, l'idée première, quand ils ont requinqué cette station-service en bar, c'était de vider le sable qu'il y a eu dans la citerne là et faire un bar sous-marin. Bon, ça n'a pas été fait parce que des problèmes techniques se sont posés, mais parce que toutes les citernes sont remplies de sable une fois qu'une station-service est vidée. Putsch, à la place du pétrole, ils mettent du sable pour éviter les gaz et tout. Et donc là, la station, il devait faire, vraiment faire ça, quoi. Et je trouvais l'idée vraiment chouette.
L'idée est bonne, ouais. L'idée est bonne, ouais.
Au Doubop aussi, sa cave, il voulait faire une coque de bateau au fond de cale avec les bidons.
Où ça?
Au Doubop. Hein. Mais je veux pas citer de bar. Hein.
Non, pas
de
mauvaise
enfin, mais c'est pour l'historique. Enfin, il y a des idées qui traînent sur des endroits où on peut consommer de façon agréable. C'est ça, quoi. Atmosphère.
D'ailleurs, ça fait un excellent lien avec la machine qui fait les pieds et les mains, parce que Polo, c'est pas uniquement la machine à faire du martini gin. J'ai pas envie qu'on reçoive une quantité de lettres contre de la Croix-Bleue d'une part ou d'associations anti-alcooliques, ça ferait des ordres.
Ouais.
Tu fais autre chose.
Au lycée, j'avais rencontré un mec et c'est un peu lui qui m'a donné la pêche pour faire justement la machine à faire des ronds de fumée. Et lui, en fait, on faisait du fraisage et du tournage et en atelier. Est-ce que ouais. Et en atelier, quand on faisait vite les pièces et tout, on avait du temps en rab et on pouvait faire nos pièces pour notre usage personnel. Et lui tournait des cônes en métal, en tops, et sur son armoire, chez lui, en fait, il descendait le truc et il était en train de monter une rouleuse à pétards automatisée.
Excellent.
Il m'avait marqué, cet homme-là m'avait marqué.
Ils ont même pratiqué le hashish.
Et donc après, je me suis retrouvé seul, enfin bref, et la machine à faire des ronds de fumée est partie là. Et le premier prototype, en fait, c'était une bouteille de soda en plastique, pouch, découpée au milieu, comme ça, avec préservatif et fumée de cigarette à l'intérieur, et pichenette sur le cul, enfin bref, ça faisait des ronds de fumée après, enfin voilà. Je prends pas trop de paroles.
Oh non, pas du tout, tu peux continuer toute la nuit, tu sais que nous sommes pendus à tes lèvres. Mais est-ce qu'il faut justement consommer beaucoup de tout ça pour avoir ce genre d'idée?
Du tout.
Ou est-ce que vous êtes tombé dedans comme Obélix
Comme Obélix.
D'accord.
Non, c'est de famille, c'est réellement de famille, et parfois même les cousins, enfin partout.
Finalement, c'est une émission interdite au moins de 18 ans, parce que tu fais des ronds de fumée, tu t'es inspiré d'une pseudo-machine à faire des...
On fume à pétards, 14 ans.
Tu fais des... Oui, on est en France, c'est vrai, on n'est pas encore en Afghanistan. Mais tu fais une machine à martini gin, donc tu fais pas une machine à poupée gonflable ou des trucs comme ça, des fois que...
Non, sexe, non.
Private, ok.
Pas encore. Non, mais éventuellement, peut-être. C'est vrai qu'on peut imaginer des trucs terribles.
Bah écoute, t'as l'air bien parti dans ce domaine, donc pourquoi pas.
Ouais, enfin, on verra. L'avenir. Mais je pensais à un truc, j'ai oublié, c'est dommage.
Avant de passer à toutes les autres machines utiles ou inutiles, à vous de le déterminer.
Mais d'intérêt
on va
public.
Écouter Pardon. Un petit morceau,
ça y est.
Cette fois-ci, ça va bien être celui-là, certainement, qui s'appelle Number One Cup.
Non, c'est bon.
Il s'agissait bien sûr des Number One Cup. D'ailleurs, le titre du morceau, je l'ai complètement oublié, donc ça sera pour la prochaine émission ou en lien sur le site. En aparté, Polo, revenons à toi. Tu nous disais que on a évoqué tout à l'heure Obélix qui était tombé dans une marmite pleine de potions, et je crois qu'il t'est revenu un souvenir, ou il t'est revenu.
Ouais, j'ai eu l'occasion là d'aller rencontrer un psychiatre deux fois là, et lui était très étonné du personnage. Enfin, comment je me suis présenté à lui, d'une façon très naturelle. Déjà à l'armée, ça m'avait fait ça, pouch. Puis ils m'ont mis au dehors au bout de 3 jours. Je m'en suis pas plaint. Et là, l'autre fois, le psychiatre, en fait, a conclu sur le fait que je ressentais les mêmes choses qu'un héroïnomane, ou et de façon naturelle, quoi. C'est-à-dire que je shootais de base naturellement, je sais pas comment. Donc au niveau de l'émotion ou de tout ce que je peux ressentir. Enfin, pour expliquer le pourquoi du comment j'arrive à prendre de temps sur une vie qui pourrait être tranquille, à aller dans un atelier, à me casser la tête, à faire des trucs pas possibles.
Donc tu transcendes ta toxicologie en fait par le fait de faire des...
Ouais, et puis d'emmener le public dans ses, en faisant des gros ronds de fumée. Enfin, ça fait dérailler pas mal de monde.
Mais oui,
et
je parle là
du grand public.
Mais c'est ce qui...
Et ça fait du bien à tout le monde. Enfin...
Mais c'est ce qui est très plaisant justement dans tes œuvres, parce qu'on peut y participer. La machine à Martini Gin, on peut se diriger vers elle tranquillement, la regarder, sous toutes ses coutures,
la
se servir un verre.
Et ouais.
Et la machine à faire des ronds de fumée, on peut jouer avec la fumée, parce que je crois que tu as... le principe, en fait, c'est... tu as deux machines, c'est ça, qui sont disposées de façon oblique, et les ronds de fumée se croisent.
On peut jouer avec les ronds, mais aussi, c'est un jeu d'enfant, c'est-à-dire que l'enfant peut arriver et manipuler la machine lui-même, de par lui-même, en tournant la manivelle.
Donc c'est ludique en plus.
Ouais, c'est ludique.
C'est ludique.
Ouais, et parfumé. Alors, oui, ce fameux Jacques Corti, un peintre du Havre. Un homme assez âgé, en fait, médecin à la retraite, qui voit cette machine et qui déraille vraiment dessus. Et en fait, cet homme-là, il commence à écrire des textes un peu disjonctés, mais très très bien, comme les farces sur France Inter, je crois. Il y a une émission, où... bref, une émission à la radio très marrante.
France Inter, c'est pas une radio
bizarre,
locale.
Bah, moi, j'écoute beaucoup France Inter. Malheureusement, je vois pas de quoi il s'agit, mais
enfin,
ça a l'air vachement intéressant.
Ce que je voulais dire par là, c'est que ce Jacques Corti écrit des textes assez... Oh là là, mince. Ça y est.
Percutant
et...
Précis.
Précis, mais qui n'ont pas de sens, mais qui font comme si c'était réel. Surréaliste.
Écoute, je n'osais pas prononcer ce mot parce qu'il est tellement utilisé à plein de sauces.
Il prépare des lectures de ses textes par des comédiens dans des cafés littéraires, dits littéraires. Et lui voulait des ronds de fumée en plus, et voulait charger ces ronds de fumée de protoxyde d'azote. Donc cet homme est médecin, et le protoxyde d'azote est un gaz qui fait rigoler.
Ah.
Et il voulait faire lire ces textes qui ont ni queue ni tête par ses comédiens avec du gaz. Enfin voilà.
Excellente idée.
Anecdote. Dangereux, mais je me fie à son.
Est-ce qu'on...
Voilà. Enfin, comme quoi, non. Ça inspire toutes sortes. Mais si.
Bon. On se fait plein de signes, vous pouvez pas nous voir évidemment, mais non, je voulais juste te dire, parce que c'est pareil, surréaliste, ça a été galvaudé, mais en l'occurrence apparemment ça tombait bien. Et aussi tout à l'heure j'étais tentée, bon évidemment comme beaucoup de gens, de parler de Prévert en parlant de ce que vous faites d'ailleurs tous les deux. Est-ce qu'on peut dire que ça se rejoint aussi, parce que c'est justement, enfin j'y pense parce que t'as dit Polo qu'il pouvait y avoir des textes qui faisaient réaliste sans l'être, c'est-à-dire que pour moi, Prévert, c'est ça, c'est-à-dire une espèce d'imagination, de poésie populaire qui part dans le n'importe quoi par moment, mais en fait... alors, je sais pas si vous vous sentez tous les deux concernés, j'en sais rien.
Je prends la parole, là.
La parole est à Jean-Marc.
Non, mais en fait, ce que Juliette, tu viens de dire, tu as un ton parfait, c'est que... Moi, ça me fait penser que Polo et moi, on a fait dernièrement deux expos, l'une à la suite de l'autre, et qui s'intitulait Poésie et transformation. Et même si il y a rien de poétique au niveau du verbe, c'est vrai que c'est pas nous qui avions eu l'idée de l'appeler comme ça, c'est François de la galerie de Dozulé, qu'on peut saluer au passage, parce qu'en fait, il y a forcément de la poésie. En tout cas, moi, dans ce que fait Polo, j'y vois de la poésie.
Bah, dans ce que tu fais aussi, je pense.
Ah, oui.
Bah, dans ce que je fais, j'en vois aussi, mais c'est pas forcément à moi de le dire. Donc, ouais, Prévert, poésie...
Donc mécano poète, ça correspond bien.
Oui,
pour
oui.
En venir à cette définition de mécano poète, je ne sais pas si elle est venue.
Mais en fait, la définition, elle est venue comme ça. Je faisais des ronds de fumée sur un stand où il y avait pas mal de public qui passait et tout. Et puis il y a quelques personnes, et entre autres une personne, Florence qui s'est arrêtée. Je connaissais pas son prénom. Et puis elle m'a envoyé. Elle connaissait un peu un festival qui s'appelle Quand les machineries au pays de Montbéliard, dans l'est de la France. Et elle m'a guidé là-dessus. Et là, bon, bah, j'ai téléphoné, les Lascars, je leur parle d'une machine à faire des ronds de fumée, ils me croyaient qu'à moitié, ils m'ont dit, bah, viens. Et on verra bien, quoi. Et puis, j'y suis allé, et c'était super chouette. Et là, il y avait une vingtaine de sculpteurs, d'un peu partout. Un festival de machines inutiles.
Et ça a été bien relayé par la presse, ça, le...
Ah ouais, ça c'est super médiatisé, ça passe à la télé, Arte, tout ça. Enfin, c'est une scène nationale. En fait, c'est des copains au Royal et tout ça. Enfin, c'est.
J'imagine que ça t'a ouvert.
Ils avaient fait une grande roue sur les Champs-Élysées en l'an 2000, mais ils sont assez barrés.
En fait, le truc, c'est le centre d'art et de plaisanterie, c'est
ça ? Tout près de la Suisse, et je les soupçonne de détourner pas mal de pognon, d'ailleurs. Il faut le dire !
Des machines à détourner le pognon, je crois que ça fait longtemps que ça a été inventé, malheureusement.
Moi, je me sens mieux dans le domaine de l'inutile, justement. Justement.
J'ai déraillé, là.
Mais comment dirais-je, comparativement à ton acolyte d'en face ?
À mon alcoolique ? Quoi ?
Est-ce que tu envies de tes œuvres ? Tu arrives à... Tu viens de citer une manifestation assez connue des...
Je voudrais arriver à ça, et puis en fait, ça vient. J'en vis pas, mais ça contribue quand même. Financièrement, c'est intéressant. Enfin, je loue en fait mes machines.
D'accord, donc ça se passe comme ça. Donc si on veut te mandater pour faire des bourrons de fumée, pour boire un martini gin, ou faire des mains et des pieds, on va y venir dans quelques secondes. Tu loues tes services, alors comment ça se passe ?
C'est passé comme ça, parce qu'en fait, on me propose, on me sollicite, mais en final, moi, je démarche pas.
D'accord, donc monsieur est dans une position assez attentiste, finalement.
Bah, ouais.
Donc, tu jouis d'une certaine aura, d'une certaine popularité.
Ça commence à... Ouais, ouais. Mais bon, je bosse, hein.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que, comme Jean Marlowe, tu es obligé de travailler à côté, ou est-ce que tu peux passer beaucoup
de temps
là-dessus ?
Je travaille à côté aussi. Ouais. En fait, je mène trois vies de front. Un enfant qui a 2 ans et demi, qui s'appelle Marius et qui est super marrant. Un travail d'architecte.
Hein ?
Je
préfère le mien.
Ouais, non, c'est vrai.
Il s'appelle Félix, qui est très marrant.
Non, mais... ouais.
C'est peut-être le même. Non, pardon. Excusez-moi. On s'égare. Bon, on va continuer avec toi, Polo.
Juste un mot sur le festival des machines qui rit. En fait, ils sont installés dans un ancien cinéma où ils ont enlevé toutes les banquettes et tout est en fond noir mat. Alors, c'est bien que l'expo, en fait, on arrive par où on arrive normalement dans un cinéma et on descend tout et on se met dos à l'écran et là, on se retrouve en face de gradins où sont disposées les machines et c'est assez intéressant. Voilà.
C'est un jeu d'ombre ? Comment ça se passe ?
Aussi, puisqu'il y a des machines qui jouent avec la lumière. Et d'ailleurs, d'avoir rencontré ces gars-là, d'avoir vu leur installation, ça m'a ouvert. Moi, j'étais vachement en partie rond de fumée et tout. Et maintenant, je commence à jouer avec une spirale en volume qui tourne et un projo derrière, ce qui fait une grande spirale. Une grande spirale lumineuse. Voilà, ouais. En fait, il y a plein de trucs à faire. Ouais.
Ça t'a ouvert d'autres horizons ? Tu t'es ouvert sur...
Genre, alors, une pièce que j'ai vue d'une artiste... je sais plus d'où elle venait, mais la pièce, je vais essayer de la définir. On a 2 minutes.
Ah, tu as, on a tout notre temps.
Donc, le mur, et sur le mur, deux pattes en métal accrochées assez hautes, façon tringle à rideau, et avec un drap accroché à cette tringle. Donc, à, disons, 2 mètres du mur. Et ce drap, il devait faire 3 mètres de large et 2,50 mètres de haut. Je sais pas si on comprend bien.
Ouais, jusque là ça va.
Et là, derrière ce drap, il y avait un dispositif. En fait, il y avait un sèche-main façon autoroute. Et il y avait quoi encore ? Il y avait un petit loup, une gueule de loup fait en ombre chinoise. Et puis un projo placé de telle façon que quand on passait, ça déclenchait le sèche-main qui se mettait à faire. Donc le drap a bougé, la lumière s'allumait, et l'ombre du petit loup apparaissait sur le drap, mais en énorme, alors que ça faisait 2 cm de large, et puis là ça faisait après 1 mètre, et donc l'ombre bougeait sur le drap, et donc on était rentré dans un mauvais rêve, mais joli. Enfin, donc c'était un petit dispositif, sympatoche. Il faut
voilà,
les voir,
de l'imagerie radiophonique.
Mais t'en fumes beaucoup des pétards avant de
mais
faire
aucun,
des trucs, non?
C'est naturel.
C'est naturel.
C'est un drame. Non, mais ça fait mon malheur. Hein,
moi, je ferais vachement comme économie si j'avais ton cerveau, finalement. Ok, on va peut-être s'écouter...
Changeons.
Ah, ce que tu veux, c'est ta programmation. D'ailleurs, excellente programmation de Bertrand ce soir.
On enchaîne sur Radiohead. Le morceau s'appelle The National Anthem. Désolé pour l'accent, mais c'est déplorable.
Mais non.
We'll be right back.
Radio Apple Pie, ça tombe bien, Jean-Marc Locke vient de regagner sa chaise et son micro. Justement, on voulait lui poser deux ou trois questions, c'est pas merveilleux ça? On voulait lui dire quoi? Ah.
Et on parlait sculpture en fait, parce que...
Voilà. En fait, on se demandait un truc, c'est si tes volumes ou assemblages, etc., étaient dans leurs trois dimensions comme ça, et si tu pensais toi aussi, à, ou peut-être que tu en fais déjà d'ailleurs, à faire des choses en mouvement.
Non, pas vraiment. Enfin, j'ai eu des idées de... Par exemple, j'ai fait un poisson et j'avais eu l'idée, mais ça s'est jamais fait, de demander à Polo de m'aider à lui faire sortir des ronds de fumée. Ça aurait été une façon de plus de m'associer avec Polo. Mais ça s'est jamais fait. Mais en fait, plus le temps passe, plus... Oui, j'ai un truc qui est en mouvement. C'est un personnage qui clignote. Enfin, c'est dur, je suis quasiment incapable de le décrire, mais la plupart des choses que je fais, je pense, ont leur vie propre sans être animées d'une manière que, de quelle manière que ce soit.
Ouais, en fait, tu trouverais que ça serait quelque chose de faux, enfin de trop. De,
ouais, je pense, ouais.
Je pense que les trois dimensions se suffisent à elles-mêmes.
Ouais, pour l'instant, en tout cas.
Avec peut-être le côté texte, quand même, qui accompagne parfois.
Ouais, je pense que moi, l'idée des textes, en fait, j'y tiens parce que ça me plaît de simplement d'écrire. Et je pense que ça peut mettre une forme de mouvement. Enfin, c'est un élément supplémentaire à ce que je fais, en tout cas.
Mais ça fait partie entière finalement de l'œuvre, je trouve, quand on lit ce que tu écris sur. Une fois qu'on a eu le texte, on peut plus, à mon avis, dissocier la sculpture de l'écrit. Pour moi, les deux sont...
C'est un peu le but recherché. Enfin, si ce que tu dis est vrai, tant mieux.
Sinon, je te le dirais pas, Jean.
Non, c'est vrai.
Donc, c'est vrai, mais ça va être encore difficile à rendre à la radio une fois de plus, parce que on a devant nous Carolus Cocainos, la photo du volume. On a devant nous aussi le texte de Carolus Cocainos, mais... Est-ce que tu nous en lirais un petit extrait ou
non? Bah écoute, je veux bien me lancer, ouais, il n'y a pas de problème. On peut attaquer par... Allez, on va y aller, sans filer. Ouvrez les guillemets. On lui doit certaines des inventions les plus redoutables de ces 67 dernières années. 1962, ses recherches en mécanobotanique lui permettent d'inventer l'éplucheur de pommes de pin, entre parenthèses, échec commercial. On se demande pourquoi. 1963, il publie son premier et unique ouvrage intitulé 20 Blood de Nice Back. Et sorti en 2000 exemplaires.
Excuse-moi de t'interrompre.
C'est aujourd'hui un collecteur. Mon accent est... Oui, vas-y, Jean-Marie.
Je t'interromps. Si tu traduis 20 Blood de Nice Back.
Justement, on s'est posé la question.
Bah, 20.
20.
Blood.
100.
The.
Le.
Nice.
Beau.
Oh,
oh là là,
là 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 là, on avait raté ça. Bon alors on l'a refait pour nos auditeurs.
Non,
tu le dis en anglais, non, je le dis en français.
Ouais, on n'est pas très subtil ce soir, donc pardon. Je le répète en anglais. 20 Blood de Nice Back.
Vincent Le Bodo, ouais, bien joué. Alors là, bravo Jean-Marie.
Apple Pie. Ok, on continue avec, à mon avis, ce qui est l'année la plus importante.
Dans la vie de Carolus Cocainos.
1964, c'est la période creuse. On passe donc directement à 1965.
Bien sûr.
L'Aceta lui fait un pondeur pour qu'il essaie de prouver, ou plutôt de faire avaler, que le tabac permet d'augmenter la durée de vie. Il tente l'expérience, mais se voit assigné en justice par le ministère de la Santé pour tentative d'homicide et incitation à la toxicomanie. Alors Jean-Marie, je comprends pourquoi t'as trois cigarettes à chaque phalange maintenant. T'as pas besoin de t'expliquer. 1966, juillet. Important juillet. Première fugue. Les forces de l'ordre le retrouvent en train de cambrioler la cave, bien garni entre parenthèses, de son arrière-grand-père maternel. Elle le tire par l'oreille pour le ramener chez des parents effondrés. Et là, novembre, c'est la catastrophe, c'est la deuxième fugue. Il a juste le temps de faire le tour du pâté de maison au volant de la dauphine de son père avant d'aller rouler une pelle à la vitrine de la boulangerie du coin. La boulangerie, on n'en parle pas dans le...
Ah mais en plus, j'ai un copain qui s'est arrivé avec sa voiture d'aller embrasser une boulangerie et petit clin d'œil au président, il va se reconnaître.
En espérant que ce soit mieux terminé pour lui. On arrive donc directement au mois de décembre de l'année 1966. On lui confère son émancipation et il l'utilise bien puisqu'il s'offre un tour du monde avec la sulfureuse Delphine Cocainos, fraîchement épousée. Sans commentaire. 1967, le gouvernement en place lui délivre un brevet pour son invention la plus fulgurante. Et là, Juliette, je vais passer la parole.
La suceuse, attention, lunettes à lire les pensées. C'est au cours de cette même année qu'il s'oppose au droit d'utilisation de sa suceuse par l'armée française.
On se demande pourquoi.
Tout à l'honneur de Carolus Cocainos. 1968, invention de la fameuse bagacelle. 1969, il porte ses mémoires à l'écran. Daniel Prévost incarnera le personnage. Il divorce, il sombre dans la drogue, dur. Il arrête de fumer, il casse la gueule à François Valéry, il fait sa première communion et il invente les lunettes de lune. Peut-être qu'on y reviendra. 1970, il meurt de sa moche mort, puisqu'il est emporté par la maladie.
C'est quand même merveilleux. Hein.
Absolument. Ce qui nous fait penser un petit peu à notre ami Bobo Léon, non ?
Ah oui.
Ah oui. Enfin voilà.
Tiens, d'ailleurs, on aurait dû.
Oui, on aurait eu le chic, on aurait fait un enchaînement magique, mais enfin non. Donc bravo pour ce texte de Carolus Cocainos.
Et finalement, tout le monde connaît Bobby Lapointe aussi, donc on n'a peut-être pas besoin d'en.
Non.
Hein ? Bon. Moi, il y a un truc qui m'étonne quand même, c'est que, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette de vos parts respectives à vous, personnellement, vous-même, tous les deux. C'est que à chaque fois que bah, que Paul parle de son œuvre, implicitement ou directement, il cite Jean-Marie. Et à chaque fois que Jean-Marie parle d'une de ses œuvres, il cite Paul. Et ça, je trouve ça vraiment. Alors, c'est quoi ? C'est une équipe ? C'est les Dupont et Dupont ? C'est. On sent que vous êtes vraiment.
Tu m'as cité ?
Pardon ? Bah, moi, je. Bah en fait, il y a quelques années, mais c'est très récent, Paul et moi avons fait connaissance, donc ça fait 3-4 ans. Et puis, très vite, sans qu'on ait établi des règles absolues, enfin, on s'est dit qu'on allait essayer de faire des trucs ensemble, et puis bah, ça a fonctionné, puis moi je crois que ça fonctionne encore, puisqu'on a des projets communs, et puis... les petites expériences qu'on a eues ensemble, pour l'instant, ont plus ou moins fonctionné, quoi.
Polo, quelque chose à rajouter par rapport à ça ?
Ouais, mais le projet, c'est le fameux camion citerne.
Bah, d'ailleurs, si quelqu'un connaît une citerne à vendre, pas cher, mais une belle.
On commencerait plus réduit, c'est-à-dire on partirait sur une citerne pas motorisée.
Ça voudrait dire que directement, tu pourrais tout installer le moteur dessus, tu pourrais tout faire.
Après, on le croche à une voiture.
Directement.
Qui, elle, est équipée d'un moteur, ouais, directement.
Et au niveau projet, autre projet, vous avez d'autres expos ensemble, d'autres. Mais vous faites jamais une œuvre. Parce qu'en fait, Jean-Marie s'occupe des textes principalement, mais il vous est jamais arrivé de bosser concrètement sur une sculpture ensemble ou sur un.
Si, bah justement, la citerne, là. Alors, Marloc, il est en train de designer les roues et les jantes.
Ah !
D'accord, donc ça va être votre premier projet, finalement, vraiment.
Je pense, ouais. C'est-à-dire que, là, pour l'instant, on est intervenu. C'est-à-dire, Marloc m'a influencé sur des pièces. Il m'a dit, ouais, tiens, tu devrais faire ci, comme ci, ou ça, comme ça, et puis je l'ai pas fait comme ci, ni comme ça, mais j'ai repris en bref, et puis pareil, de sa part... Je dis, tiens, on
est... Non, mais pour en revenir à ta question, Bertrand, je pense que rien que le fait de monter une expo ensemble, je parle de l'implantation de l'expo, la disposition des pièces, à mon sens, c'est déjà un boulot commun.
Ouais, je pense aussi.
Parce que le fait de se dire, bah tiens, si tu mettais ça, ça mettrait en valeur ça, bah non, écoute, tout ça, quoi.
Non, mais la preuve en est, c'est que bah, parfois on se trompe, on peut se tromper. C'est ouais. J'ai vu l'exposition que vous avez fait à Mamie Blue, c'était quand ? C'était l'année dernière, je crois ?
C'était en
octobre. À l'automne ?
Octobre.
Octobre, je crois,
oui. On a l'affiche.
Et mais c'est vrai que les éléments se s'imbriquent les uns dans les autres, et finalement, on pourrait même croire que ça vient d'une seule et même personne, je trouve.
En fait, là, on était quatre. Hein.
Enfin oui, là, on était quatre, mais on a déjà, Polo et moi, exposé combien de fois ensemble ? C'était la deuxième, que tous les deux, c'était la deuxième fois. Puis en fait, ça se mariait parfaitement. Enfin,
hommage à Gaston Floquet. Donc cette expo là que tu as vu, Bertrand, chez Mamie Blue, nous étions quatre, deux sculpteurs de basse Normandie et nous-mêmes de haute Normandie. Et la personne qui était le doyen, je crois, qui avait à peu près 90 ans, est décédé le lundi de Pâques. Gaston Floquet, l'homme, le sculpteur inoxydable. Okay. Soit dit en passant.
Inoxydable. En parlant d'inoxydable, on va s'écouter un morceau de Tom Waits, qui lui l'est aussi, qui s'appelle Red Shoes by the Drugstore.
Ah. red shoes, about a newsstand. The rain splashed a nickel and spilled like champagne all along the midway. There's a little blue jay, a red dress, sad night. One stroll, we in a root beer, a compact with a cracked mirror. A bottle of evening in Paris perfume with a sad tune. He told her to wait by the magazines, take care of business, it seems. Bring a raincoat, bring a suitcase, bring your dark eyes. Where those red shoes? There's a doc who let the bus stop. Rallies arranged in a sad bouquet. Little Caesar got caught. He's going on down a second. He was cooled. Changing stations on the chamber to steal a diamond ring from a jewelry store for his baby. Loved the way she looked in those red shoes. She waited by the drugstore. Caesar never been this late before. Dogs bayed the moon, rattled a chain. And the cold jingle of taps in a puddle was a burglar alarm, snitching on Caesar. And the rain washed memories from the sidewalks. The hound splashed the nickel for the soldiers. Santa Claus is drunk in the ski room. It's Christmas Eve in a sad cafe. When the moon gets its way, there's a little blue jay by the newsstand. Red shoes, red shoes. So mid-mad at night by the drugstore. Mid-mad at night by the drugstore. Mid mad at night by the drugstore. Going out at night, going out at night, going out at night. Wear your red shoes, red shoes. Wear your red shoes, red shoes, red shoes.
Et hop, c'est reparti, tout le monde n'est pas encore à table, mais c'est pas grave, on va commencer à manger sans Polo. En fait, je voulais poser une question qui les concernait tous les deux, bah, c'est Jean Marlot qui répondra. C'était de savoir si ça vous avait rassuré quand vous êtes connus. Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, il y a quelqu'un comme moi, je me sens moins seul. En fait, c'était ça que je voulais dire.
Ah bah, réponse oui en ce qui me concerne. Ouais, complètement, voilà.
Parce qu'en fait, je me demande, non, mais des fois, peut-être que quand on fait des choses comme ça, que des tas de gens peuvent trouver à la fois hurluberlu, inutile, enfin, quoi que ce soit, j'en sais rien, bizarre, enfin, nous, on n'est pas là pour dire ça, mais effectivement, ça peut être rassurant. C'est la question pour l'eau, puisque tu viens d'arriver, que je posais à Jean-Marloc. Cela vous rassurera-t-il de vous rencontrer tous les deux? Vous vous sentez-il moins seul? Ah, c'est de la coupe.
Pardon.
Tu te sentais si seul?
On comprend pourquoi tu fumes pas de pétard et que finalement.
Tu te sentais seul ou tu te sentais pas seul?
Non, j'ai réellement. C'est vrai, je viens d'arriver. Pardon.
C'est vrai. Non, bah alors, bon, lui, il a répondu oui. Est-ce que de vous être rencontré, vous êtes senti moins seul? Par rapport à chacun ce que vous faisiez, tiens, c'est bien d'avoir un copain, on est plusieurs à faire ce genre de truc.
Ah. Non, c'est-à-dire la rencontre, elle s'est passée de telle façon que, je sais pas, ça coulait de source, et puis, c'est-à-dire, ouais, bon, enfin, si je rentre dans le... Oui. Parce que, bon, on est à Mamie Blue, mais en même temps, on n'est pas que à Mamie Blue, mais il y a une histoire d'atelier, et puis de voisinage, et on s'est retrouvés à plusieurs voisins, et en final, les affinités, elles se sont... On s'est retrouvés... pas dire attiré, mais bon, c'est ensemble qu'on a discuté, et puis que ça l'a fait, avec l'histoire de Bertha, que j'ai emmené dans ma voiture, tout ça, enfin.
La fameuse histoire de Bertha. Ah oui, ça c'est une histoire incroyable.
Ça peut expliquer cela.
Bertha, c'était mon chien, enfin ma chienne. Et un soir, enfin le jour où Polo et moi avons fait connaissance, Polo m'a accompagné dans sa vieille Peugeot de l'époque. Et
Marlock avait une casquette ce soir-là.
J'avais peut-être une casquette ce soir-là. Et en fait, j'ai oublié mon chien, ma chienne dans la voiture de Polo.
Ah.
Voiture noire. Et le lendemain, le soleil tapait très fort. Et je n'avais pas le numéro de téléphone de Polo et je savais que mon chien était dans sa voiture.
Mmh.
Mais en fait, Polo a quand même vu mon chien et le chien est sorti de la voiture. Mais pour en revenir à ce que Juliette, tu disais tout à l'heure, l'affinité, pour ma part, elle s'est faite avant même que je connaisse bien ce que fait Polo. C'est plus l'individu, où est la brosse à reluire, que...
Non mais c'est évident, on a discuté directement de...
Plutôt que le boulot lui-même, j'avais, je pense, pressenti que ce qu'il faisait me plairait.
Un feeling, mais vous êtes parlé de choses qui n'ont rien à voir avec vos travaux respectifs.
C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans un environnement qui était assez shabada. C'était décontracté, mais shabada. Et je veux pas dire qu'on se faisait chier, mais direct, on avait besoin. Enfin, quand t'es de bonne humeur et que t'es dans un environnement qui te donne envie de partir, et puis c'était quand même vachement shabada. Enfin, on s'est retrouvé en fait ensemble à chatcher, si je peux me permettre. C'était simple, mais je sais pas, on parlait normalement.
Il manque une caméra quand même pour voir.
Et puis à partir de là,
Et vous êtes du genre à refaire le monde autour d'un verre ou...
Non, parce qu'en final,
Madame.
On se voit rarement à picoler dans les rades et tout.
Oh bah dis donc.
Alors on va tout savoir.
Je reste quoi?
Non, mais c'est intéressant, non? Parce que c'est vrai.
Bien sûr.
C'est vrai, hein, Marlock.
Ouais, c'est vrai.
C'est plutôt avoir des débats intellectuels en regardant des films de Jean-Luc Godard ou plutôt...
C'est un peu ça, ouais.
Devant le coucher de soleil la mer ou...
Non, mais là, le prétexte était les expos. Et puis, via les expos, on s'est retrouvés à passer du temps ensemble. Et c'était pas des souleries dans les bars. Et c'était plutôt de la route, passer des ponts, éventuellement des terrasses. C'est plutôt l'après-midi, 4-5 bières. Et puis là, c'est plus marrant. En plein jour.
C'est
là où on a imaginé la Martini Gin, d'ailleurs, en fleurs.
Hey, on va tout savoir, ça y est, la véritable histoire de la machine à Martini Gin. Scarnaud menaçait de révéler tout à l'heure.
Ah oui.
Il faut y aller maintenant.
Une fois de plus,
maintenant.
L'art naît de la frustration, quoi.
Ah ouais, je sais pas. Non, mais je sais pas, en fait, on se force pas, puis ça fonctionne. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, en fait, avant, voilà, je faisais la peinture, et puis un jour, on m'a proposé, tiens, ouais, tu devrais exposer. Ah bon, exposer, vous croyez? Et puis je l'ai fait, et puis en fait, ça, c'était chouette. Et après, j'ai arrêté de faire la peinture, je me suis mis à faire la sculpture, des machines et tout ça. Et Marlock, en fait, m'a invité à participer à une de ses expos en Basse-Normandie, où il avait eu un contact avec un galeriste qui est François, et qui est terrible. Et donc, j'ai accompagné Marlock là-bas. Et donc, on a fait cette expo. Et en fait, François avait aucunement médiatisé cette expo. Et a eu l'honnêteté de nous dire, putain, j'ai les boules, j'ai rien fait et c'est vachement bien ce que vous avez fait. Et à partir de là, il a pensé réorganiser une expo avec deux sculpteurs de Basse-Normandie. Et là, on s'est retrouvés à quatre. Et c'est cette expo qu'on a après transportée au Havre. Enfin, voilà, et puis Gaston Floquet. Et puis c'est via toutes ces histoires-là que on passe du temps ensemble sans pour autant... C'est pas festif, hein.
À quand le concours les pieds?
Oh non, regarde la tête. C'est pas festif. Non.
Non, c'est réel, hein, réellement.
Non.
Donc, à quand le concours l'épine?
À quand
ou ailleurs?
Sinon,
le lieu de... Enfin, la galerie François, etc., c'est la galerie 175.
À Dozulé.
En fait, on a exposé deux fois là-bas et vachement bien. Bel endroit.
Ça a été porteur pour vous? Ça a été...
Bah oui, et surtout moteur, envie de...
De continuer
dans, pas forcément de faire la réplique exacte de ce qu'on a fait là-bas, mais de continuer avec cette mentalité-là, en tout cas.
Donc ouais, bon état d'esprit.
Mais ça, c'est ce qui est le plus motivant pour vous, finalement, c'est de rencontrer d'autres gens qui s'investissent autant et puis qui font des...
Ah ouais, carrément, enfin...
Ouais.
Ouais, et puis qui refilent leurs tuyaux aussi.
Ouh. Ouais.
Il y a des façons de procéder, et puis... Je revois Gaston se pencher. Non, mais oui, non, pardon.
Non, vraiment, je m'en voudrais de couper.
Gaston qui se penche sur la nationale qu'on est en train de traverser pour aller manger, puis qui ramasse le petit bout de ferraille. En fait, non, on l'a ramassé devant lui, et lui était dingue, mais je l'avais pas vu. Et... Enfin,
on va en parler plus tard, beaucoup plus tard de ça.
Sous-marin.
On va enchaîner avec un morceau de Bob Lock 3 qui s'appelle Bobby Trap 2, qui est dédié à François Lebas dans sa grande période paillettes et talons compensés.
Tu sais, Jean-Marie, je ne t'ai pas encore dit, mais peut-être en Basse-Normandie, nous irons vers Évreux, dans une galerie, la troisième rive, une galerie d'art brut, disent-ils.
C'est quoi la date ?
La date, je ne sais plus trop, mais c'est au milieu du mois de juin. Et là, on irait, et en fait, ça peut rebondir sur un truc terrible qui est à Orléans, et c'est un lascar, il a monté une galerie dans son appartement, dans sa salle à manger. J'ai oublié son nom, là, mais ça s'appelle L'Escalier, et lui est drôle.
Bah écoute, ouais, moi je te suis dans l'histoire.
Ouais, puis t'as un camion vert épinard d'enfer. Voilà, puisqu'on... il fallait le dire. Hein.
Ok, oui. Puisqu'on est en train de parler des, bah, de vos projets communs, se murmure dans les murailles de la ville qu'un projet un petit peu fou se projettera d'ici très peu de temps, quand vos deux emplois du temps respectifs seront un petit peu plus libres. Comme quoi des bruits couraient que un mouvement pseudo-terroriste aurait peut-être... Enfin, l'émergence de ce mouvement pourrait bientôt arriver. Et
c'est pas semer la terreur. Hein.
Et répandre quelques empreintes de couleurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui.
Merci.
Lequel ? Ta-ta-ta, lequel ?
Ça a commencé d'ailleurs, dans cette rue qui est parallèle à la rue René Coty. Sur un trottoir bitume noir, quelques traces jaunes de peinture. Deux ans, elle dure deux ans. Là aussi, devant le trottoir du café dans lequel nous nous situons à présent, quelques empreintes qui devraient durer normalement 9 mois. J'avais dit 3 semaines, mais en fait, c'est 9. Alors, c'est de la TP++.
C'est là. Mais des empreintes de quoi, si je puis me permettre ?
De pied et de main. Main-pied, pied-main. C'est les traces que ça fait quand on marche à quatre pattes. Voilà.
D'accord. Et au niveau du projet, là, je m'adresse à toi, Jean-Marie, parce que tu es un des principaux investigateurs du mouvement qui se prépare. Qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce qui est en gestation actuellement ?
Concrètement, Polo vient de le dire, on utiliserait plusieurs de ces machines qui font des pieds et des mains. Ça imprime sur le sol avec de la peinture aérosol des pieds et des mains. Et le but de l'opération serait d'en coller sur beaucoup de trottoirs de la ville, pas pour salir les trottoirs, mais simplement pour
mettre de la gaieté,
les décorer,
pour
surprendre.
Puis c'est un petit côté aussi, ça fait quand même certainement se poser pas mal de questions. Et il n'y a pas longtemps, je suis passé dire bonjour à Polo dans son atelier. Et il venait de finir une de ces machines à faire machine qui fait des pieds et des mains. Il m'a proposé d'aller la tester. On a mis ça dans le coffre de la voiture et on a été sur un trottoir de la ville du Havre et on a bombé par terre et c'est très joli.
Excuse-moi, si quelqu'un pouvait arrêter son portable, ça serait vachement sympa. Ça va 5 minutes. Merci. Désolé, Jean-Marlon.
Qu'est-ce que t'es râleuse.
Et par rapport à cette histoire de pieds et de mains... Concrètement, je vois pas comment marche la machine, mais ça peut marcher sur les murs aussi, ou c'est juste à l'horizontale ?
Horizontale, hein. Ouais. Particulièrement horizontale. Et là, derrière Jean-Marie, il y a une carte de l'Europe type façon Michelin, et je repense à la collection de cartes Michelin qui m'a filé, qui appartenait à son grand-père. Et en fait, avec cette machine, ce serait vraiment marrant d'aller loin, et pas se limiter à une ville, et puis tracer.
Là, il va falloir que tu rachètes une boîte de peinture, parce que ça te coûtait cher.
Au moins. Donc nous cherchons des sponsors.
Et puis, nous aussi on a des portables. Hein.
Et puis l'intérêt de la chose, enfin de l'opération bombage de pieds et de mains par terre, c'est aussi un petit peu l'appréhension d'être ennuyé par la marée chaussée. Ça donne un peu de picotement, moi ça m'excite.
Ça veut dire que c'est une action terroriste finalement, il va falloir que ça se passe dans un délai imparti avec Toki Walkie, avec tout ce qu'il faut et puis...
C'est ça, puis on s'habille en noir et puis on va bomber la ville.
Et parce qu'en fait on n'a pas beaucoup parlé techniquement, ça prend beaucoup de place, comment ça marche cette machine à faire des pieds et des mains ?
Si on parle de cette machine là en particulier, ça marche avec des aérosols et les bombes sont fixes. Et le pochoir tourne autour de ces bombes. C'est-à-dire, c'est quelque chose que l'on fait rouler. Ce qui roule, c'est un cylindre pochoir. Et les bombes sont fixes à l'intérieur de ce cylindre pochoir et balancent la peinture dans les creux créés.
Avec des pieds et des mains de différentes couleurs.
Ouais.
Bon, je dis ça parce que tout le monde...
Nous, on a vu certaines photos, mais pour nos
auditeurs, n'est-ce pas ?
Et Polo, je te propose que la prochaine fois, on s'arrange pour être invité plutôt à une émission de Téloche, parce que ça éviterait de s'embarquer dans des descriptions.
J'ai écrit à Patrick Sébastien.
Ah ouais ?
Ouais, il y a une émission, il s'appelle « Fallait y penser ».
Mais j'ai une question très pertinente.
Je regarde pas, mais on m'a dit « Tiens, j'ai relevé ça, là, tout », et puis j'ai envoyé.
Ça m'a s'appeler « J'ai arrêté de penser depuis longtemps », mais vraiment...
Aussi, ouais.
Il t'a répondu ?
Si, carrément.
Il est l'empreinte d'un pied de la main. C'est ton pied.
Attends,
c'est
Bertrand,
ta main.
Je parle.
Jean-Marie, mais je te.
Oui. Ouais. Oh.
C'est ton pied. Pourquoi t'as pas pris la main de Jean-Marie et puis, puis ton pied, par exemple?
Bah ouais.
Parce que, c'est en fait, voilà, fonctionne. Justement.
Non, mais attends, on n'est pas mariés ensemble. Merde.
Pour attraper l'animal le soir, et puis en fait, c'est un peu le soir que je bosse, c'est impossible. Donc, pour attraper sa main ou son pied, ça me paraît vraiment difficile. Donc, je prends vraiment ce que j'ai sous la main à ce moment-là. C'est-à-dire mon pied, ma main.
Mais c'est très bien d'avoir son pied sous la main, comme ça, tu peux le prendre.
Pratique.
Ok, on enchaîne avec. Ah, Olivier, merci. Justement, tu nous manquais depuis la troisième émission. On se demandait quand est-ce que tu allais revenir, mais ça y est, c'est bon.
Moi, je crois qu'il s'était flingué depuis.
He's back. He's back. And he slide again. Oh, c'est pas mal, Arnaud. Tu bon, rappelles-moi ton nom.
Puisque c'est comme ça, on a qu'à écouter un morceau, non?
Qui s'appelle Station Coffee par Jonathan Fire Eater. C'est parti.
State that I'm living in, aware of my organs. My neighbors all say it's a
Radio Apple Pie, toujours en direct du bar du même nom, place du Général de Gaulle. Oh, oui, bon, bah. Au Havre, en direct live. Dans le bar. Ah oui, d'accord, on l'a. Donc nous sommes toujours en direct de Radio Apple Pie. Et en différé, en léger différé sur le web, ce soir avec Jean Marloc et Polo.
Et Polo. Je répète, et Polo.
Et Polo. Jean Marloc.
Et Jean Marloc, on le redit une fois de plus parce que. Bon.
Nos deux invités qui ont des projets. Eh oui, non seulement ils ont beaucoup de choses à leur actif, mais en plus ils ont des projets. Alors, bah, dans l'immédiat, peut-être Polo, parce que tu nous parlais du 9 juin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Il y a le 9 juin, il y a aussi la galerie à Orléans, qui est dans l'appartement. Mais j'en ai parlé déjà.
Il avait un atout dans sa manche.
Parlé tout à l'heure. Oui, tu m'as invité tout à l'heure à y participer.
Tout à fait. Et puis les journées de l'environnement au Havre, le 9 juin. En fait, voilà quoi, j'ai été invité à construire un module qui sera tracté par une machine qui existe déjà à l'heure actuelle. Qui est, elle est tractée par en fait trois personnes, c'est-à-dire c'est constitué de plusieurs vélos et tout, les personnes se mettent à bord et pédalent et ça avance. C'est assez figuratif, pardon. Oui.
Non, juste un truc. C'est, je le dis pour les Havrais, parce que les autres non. C'est une machine que les Havrais peuvent connaître puisqu'elle se présente en gros sous la forme d'une énorme coccinelle multicolore avec oui. En effet des gens comme tu le disais qui pédalent à l'intérieur et qui donc vont tracter quoi exactement?
Un dit module. Alors le module est un mécanisme abstrait mais complexe qui devrait mesurer 2 à 2,50 m de haut sur une largeur de 1,20 m par 1,50 m de longueur. Et ça c'est une véritable usine à gaz. J'aime pas l'expression mais bon c'est...
Surtout pour la journée de l'environnement.
Ça veut dire voilà.
C'est pas mal, faut mieux faire. Ouais.
Voilà, et puis ça, au tracté, ça devrait faire des sons et ça devrait faire des quicks, 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 quicks. Enfin, à voir dans les rues du Havre le 9 juin.
D'accord.
Un parcours entre la Zacotti, l'hôtel de ville, les rues piétonnes, revenir.
Et tu as été sollicité par qui pour faire ça en fait?
Une association qui s'appelle Le Lézard, de Laurent Bréard, qui prend un malin plaisir de mélanger des personnes qui n'ont pas nécessairement des choses à faire ensemble, mais qui sont actifs.
Excellent.
Et Eddie Mitchell, qui sera bientôt parmi nous la semaine prochaine, je crois.
Monsieur Eddie, bonsoir.
Et donc, ça pour ça, Laurent a du mérite. Il arrive à mélanger des énergies. Et puis, bon, ça fait ce que ça fait. Bon, là, post a priori, ça se dit a priori, le 9 juin, ça devrait être sympatoche. Donc,
rendez-vous pour tout le monde le 9 juin. Le rendez-vous est pris. Et Jean-Marie a des projets aussi pour l'automne, d'après ce que tu nous disais.
Bah, y a un projet d'expo qui aura lieu à Nantes chez une amie qui s'appelle La Peach.
Très célèbre au Havre.
Très célèbre au Havre.
Et née en France entière d'ailleurs.
Voilà. Et puis la date n'est pas encore fixée de façon sûre, mais ça risque d'avoir lieu vers septembre, octobre, peut-être novembre. En tout cas la rentrée scolaire prochaine. Et puis expo à laquelle participeront plusieurs personnes, peut-être Polo, on ne sait pas encore.
Et si, par le travail en commun qu'on est en train de mettre en place là avec cette citerne, si jamais elle est prête. Enfin, parce que là, il y a un gros boulot.
Mais pour l'instant, les autres participants sont des Nantais ou...
Il est question d'un Havrais qui s'appelle Laurent. Mm-hmm. Et peut-être d'un Nantais qui s'appelle, je sais pas comment il s'appelle. Moi, Polo, de toute façon, il participera, même s'il implique pas plus que ça. Je l'obligerai à y participer un petit peu quand même.
Dac.
Ok. Si on termine là-dessus.
Oui, je crois que comme on dit dans les grands médias, les michons. Hein, vous voyez bien que c'est vrai. Les michons touchent à sa fin. Hein. Donc, on va rappeler quand même peut-être comment fonctionne cette petite radio.
Et surtout les invités futurs et prochains.
Écoute, alors comment on fait? On procède comment?
Écoute, je crois savoir que la prochaine c'est Anne-Lizy, non?
Absolument.
Anne-Lizy, ouais. Fantastique.
Et ouais. Ah bah je suis content.
Comment
parce
on va dire dessinatrice et écrivain?
Écrivain.
Dans 15 jours.
Fantastique personne.
Écrivain que j'apprécie aussi.
Et peintre fantastique. Ouais. Et peint à l'huile, mais attention.
Bon, l'avantage pour l'instant dans la radio, croyez pas que c'est du copinage, mais tous nos invités s'adorent les uns les autres, c'est vachement chouette.
Allez, ok, on termine en beauté avec un...
Oui, c'est honnête, hein, c'est réellement honnête. C'est pas du copinage, c'est honnête.
Ah, mais elle a sorti un bouquin il y a pas longtemps d'ailleurs, qui est... Ce sont des flashs, des instantanés de ces carnets de voyage, illustrés par des dessins et des petites légendes qui sont, que je trouve personnellement exquis.
C'est une bonne nouvelle.
C'est bien. Avant d'écouter le dernier morceau, le tout dernier morceau, je voulais juste rappeler donc que à l'Apple Pie et donc Radio Apple Pie, c'est Dom et Coco qui tiennent le bar. C'est notre public chaleureux en direct. Ouais. Comment qu'on les entend bien. C'est Arnaud à la technique, parfois accompagné de Loïc, qui n'est pas là ce soir. C'est Pierre qui crée les pages web avec plein de couleurs, de photos et toutes les œuvres des artistes en question et qui met tout ça en ligne. Et puis notre ami Bertrand.
Merci. Bonsoir. C'est comme ça qu'on dit.
Pour dire un tout petit mot vite fait, comme ça à l'accroche. On prépare un projet d'acrobatie avec un certain Mathieu Lachaud. On ferait du monocycle, lui la trompette et moi-même à l'accordéon. Un truc fandard qui sera dans les rues un jour. On s'y attendra le moins.
Et vous viendrez nous en reparler quand ce sera un petit peu plus.
Sans problème.
Ok.
Rendez-vous est pris. Bonsoir.
Bisous.
Bonsoir. My childbearing hips. Look at these, my ruby red, ruby lips. Look at these, my feet. You turn around and say back to me. He said, she.